C'est Gros Stick sur Radio Campus, c'est la première de cette nouvelle saison et il y a du monde en face de moi puisque je salue Ludovic. Salut Ludovic.
Salut Shabbat Shalom.
Et salut Mélissa.
Salut.
Salut Béré.
Je refuse ce générique.
Voilà, tu le refuses ?
Je le refuse.
D'accord. Léo, salut.
Bonsoir.
Et Nathan, notre mascotte,
oui,
notre petite mascotte fétiche.
De retour.
Et ça recommence.
Fétide.
Oh comme long.
C'est pas exactement le même sens. Hein.
Et on accueille aussi Joris.
Trop de micros me sont disposés. J'accepte ce générique, bien sûr.
Et Dylan.
Salut, j'aimerais avoir le générique comme sonnerie de téléphone.
Tu l'auras.
Merci beaucoup.
Un tout nouveau gros stick pour une toute nouvelle saison. Et aujourd'hui, on va faire une incursion dans la mode, dans le jeu vidéo. Et oui. Parce que les avatars qu'on adore, qu'on aime diriger ou incarner ou interpréter, sont souvent bien stylés, hein, la plupart du temps quand même. Hein, non hein
si.
Si. Mais on ne va pas commencer la thématique. Merci Nicolas, mais on ne va pas commencer la thématique avant de la commencer. Il y aura plein d'autres choses dans Gros Stick aujourd'hui. On parlera de quoi notamment, Nathan.
Aujourd'hui, on va faire vous aurez un test sur Metal Gear Rising Revengeance.
Oh, oh. Et on aura quoi d'autre, Mélissa ?
Alors moi, je fais une chronique test, mais un peu particulier, puisque je fais le test sur le test d'une personne. C'est-à-dire que...
D'accord, on comprendra tout à l'heure.
Je ne vais pas vous en dire plus, voilà.
Tu as utilisé son gros stick ou pas ?
On va comprendre tout à
l'heure.
Je
ne répondrai pas à cette question.
Voilà. C'est très méta, tout ça. C'est...
Avec ça, Joris.
Eh bien, on pourra poursuivre avec une musicale de Shadow of the Colossus.
Voilà, très bien, très beau.
Très beau, très beau,
très
bien
beau.
Sûr.
C'est très poétique. Hein.
Tout à fait, oui.
Mais pas que. Et il y aura aussi... Pardon, j'avale mal. Il y aura un test rétro. Il y aura un test rétro sur Giga Wing, qui est un shoot'em up hein, de 1999, voilà, que j'aime beaucoup, bien entendu.
Attention, attention, il ne faut pas faire la chronique avant la chronique.
Gros stick. La thématique.
Alors la thématique nous a été soufflée par notre cher Béré, cette fois-ci.
Oui, et ça me surprend énormément de me dire que c'est moi qui ai proposé de parler de la mode dans le jeu vidéo.
Alors déjà, pourquoi ça te surprend ?
Parce que nous, on voit comment est Nicolas Béré dans la vraie vie.
Voilà, mon style vestimentaire est douteux et peu recommandable. Non, mais
c'est toujours un beau Béré. Hein.
C'est vrai, mais c'est la quintessence de ma panoplie. En fait, je me suis dit qu'on pourrait parler de ça comme thématique, vu que, vous savez, dans Gros Stick, on aborde tellement de sujets, c'est des fois compliqué de trouver le bon angle par lequel
alors
trouver
ça serait
une thématique.
Thématique par défaut, c'est ça que tu es en train de nous...
C'est une thématique qui n'a pas encore été explorée, je dirais plutôt. Et je trouve que c'est intéressant de parler de la mode dans le jeu vidéo parce que, en soi, le jeu vidéo, comme n'importe quel autre média, il a un impact sur le vêtement, que ce soit dans son sein, on va dire, avec ce que portent les personnages qu'on incarne, ou dans son sein, comme Ludo a si bien fait, hein, le sein de la femme, n'est-ce pas ? Mais également aussi dans les vêtements, même dans la vraie vie. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne thématique par laquelle on pourrait avoir des choses intéressantes.
C'est pas pour te déplaire, Ludovic, cette thématique.
Non, mais en fait, la problématique, ce qui est assez intéressant avec cette thématique, c'est qu'on peut l'aborder de deux façons différentes. Soit on l'aborde dans la question de la tenue des personnages dans les jeux, ou soit on l'aborde dans les jeux de mode. Et je pensais innocemment qu'on allait parler de maison du style et tous les jeux à la con.
Mais je t'en prie, Ludo, parle de maison du style.
Pour gamines et cervelets. Mais,
mais
par contre, il y a un aspect intéressant. Je trouve, et tu as assez raison sur ça, Béret, sur la question de la mode, c'est comment la mode du jeu vidéo influence la vraie mode. Donc, en effet, comment s'habillerait Esmeralda en première année de LEA anglais-coréen s'il n'y avait pas eu certaines tenues, ou anglais-japonais, dans certains jeux vidéo, Final Fantasy, etc. Comment elle pourrait justifier que sa jupe soit aussi courte sauf si elle peut dire que ça vient de jeux vidéo.
Peut-être une tentative de réponse avec Mélissa.
Gamine et cervelée qui prend la parole, bonjour.
Merci.
Alors, moi j'ai joué à ces jeux à la con, comme tu les dénommes si bien, quand j'étais petite. Donc vraiment, il y avait tout. Il y avait la maison du style, Léa Passion, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. C'est vrai que pour les jeux féminins, il y a ce côté habiller son avatar ou le personnage qu'on incarne qui est plus développé que dans les jeux dits neutres pour tout le monde ou pour les garçons. Donc je pense par exemple à des jeux Zelda. En général, dans Zelda, par exemple, on n'habille pas forcément son personnage, c'est pas quelque chose qui est développé. Et puis j'ai envie de dire, on joue pas à ce genre de jeu d'aventure ou RPG pour le style vestimentaire, même si c'est important, je pense, que l'avatar nous plaise et qu'il soit un minimum stylé. Donc c'est vrai que moi, j'ai envie de vous demander autour de la table si pour vous, la question de la mode, déjà, c'est important pour vous dans le cadre du personnage que vous jouez dans les jeux.
Alors, Béret et après Joris.
Moi, je trouve que c'est une question qui est importante de nos jours, parce que tu as soulevé un point qui est assez important, c'est que quand on s'intéresse à l'histoire du jeu vidéo et de la mode dans le jeu vidéo, il n'y avait pas cet aspect qu'on retrouve maintenant dans n'importe quel jeu qui sort, à savoir le système de customisation, où vraiment tu vas créer, tu vas façonner ton personnage à ton image, et bien sûr, ça passe par également le côté vestimentaire. Et c'est vrai que c'était un aspect qui n'était pas développé ou qui n'était pas aussi présent à l'époque. Je veux dire, beaucoup des jeux qu'on jouait dans les années 80, 90, 2000, 2010, c'était souvent des personnages qui étaient définis et tu pouvais rarement les personnaliser, ou alors ils avaient de ce qu'on appelait les tenues alternatives qui souvent étaient des swaps colors ou des changements de couleurs, mais il n'y avait pas de recherche de design derrière. Alors que maintenant, n'importe quel gros jeu qui sort, que tu t'intéresses ne serait-ce qu'au MMORPG ou au gros AAA, tu vas forcément avoir un aspect esthétique pour que tu puisses t'identifier à ton personnage et que les autres joueurs, s'il y a un aspect en ligne, puissent également se dire « Ah, je reconnais ce personnage, c'est le personnage de Nicolas Loubert parce qu'il porte tel truc, tel truc, tel truc. » Par exemple.
Joris.
Alors moi, je vais répondre oui à la question de Mélissa, en vrai fashion victime que je suis. Pour moi, c'est hyper important. Je fais partie des gens qui priorisent l'aspect visuel à mon personnage que aux attributs que peuvent donner une armure ou un casque ou une épée. Et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce que toi, Mélissa, tu disais que souvent dans les jeux style RPG, c'est un peu, on s'en fout un peu, c'est plus le côté attribut qui est important. Et j'ai l'impression que c'est peut-être eux qui ont impulsé ce truc avec le fait de, comme je le disais, de changer d'armure, d'équipement, d'armes, de boucliers, etc., qui ont fait que on a pu se dire « Ah ben, mon personnage a de la gueule parce qu'il a cet équipement. » En tout cas, moi, c'est mon cas, ça m'apporte beaucoup.
Léo et après Dylan.
Oui, comme disait Beres, c'est que la personnalisation, en fait, maintenant, elle est omniprésente. Et moi, ça m'avait frappé, en fait, dans Guild Wars, un MMO qui date de milieu 2000. En fait, c'était la première fois où je voyais mon personnage dans un MMO ou un jeu comme ça qui apparaissait tel que je l'avais fait dans les cinématiques. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était quand même important de bien habiller son personnage pour que quand il apparaisse dans ses scènes d'histoire scriptées avec un scénario, des dialogues hyper sérieux, il fasse pas tâche. Et mon personnage faisait complètement tâche. En fait, il avait un...
Il te ressemblait trop.
Mais non, mais même pas, parce que dans les jeux de rôle, tu mets les meilleurs habits que tu trouves, donc c'est pas forcément les plus esthétiques, mais c'est ceux qui ont les meilleures statistiques. Et là, donc, t'as le roi, t'as plein de personnages qui ont des super costumes, et à un moment, tu vois ton personnage qui est au milieu, qui a un chapeau à la con, qui a une robe violette, des bottes jaunes et tout, et tu dis, ouais, mais c'est dommage, enfin, c'est cool d'avoir ton personnage qui apparaît comme ça, c'est toi dans la cinématique.
Ouais, mais ça jure.
Mais ça jure. Et du coup, là, récemment, j'ai fini Red Dead Redemption 2, j'ai passé, plusieurs centaines d'heures dessus, et j'ai bien passé des heures et des heures à personnaliser Arthur Morgan, le personnage, parce que tu peux avoir des tonnes et des tonnes de costumes pour faire ton cow-boy sur mesure.
Alors, il ressemble à quoi, ton cow-boy sur mesure?
Nicolas, j'ai envie de te dire, ça dépend de la situation et du climat. Car tu peux avoir des tenues chaudes, des tenues pour les temps modérés ou des tenues pour les temps d'été. Et donc, il avait...
19 degrés cet hiver. Hein.
19 degrés, tout à fait. Et pour 19 degrés, Arthur Morgan, il avait un cache-poussière marron. Mais pour l'hiver, il avait une tête d'ours empaillée sur la tête, un gros manteau en doudoune. Et ça m'a fait plaisir de jouer à la poupée avec mon cow-boy.
T'es un taxidermiste un peu, toi, alors.
Mais complètement. Et en fait, depuis Guild Wars, je me rends compte, j'adore jouer à la poupée avec mes personnages de jeux de rôle.
D'accord, ça te révèle, en fait.
Ben un peu, je trouve que c'est un moyen de s'accaparer l'avatar qu'on incarne, et puis il y a tellement d'options maintenant, il y en a pour tous les goûts, c'est, on peut faire n'importe quoi comme faire un truc vraiment beau quoi.
Dylan.
Ben, un peu dans la continuité de ce que tu disais Léo, quand tu t'impliques dans le jeu, quand tu t'accapares ton personnage et forcément l'histoire, moi je sais que du coup j'aurais tendance à peut-être plus me pour prêter attention à ce genre de détails. Par exemple, je me souviens The Witcher, j'ai passé un temps fou à chercher tous les attributs de la foutue maison de l'ours. Enfin voilà, la guilde des ours.
Mais ils sont pénibles hein, dans The Witcher
voilà.
3.
Donc c'est des pièces d'armure qu'il faut trouver, et après il faut trouver les épées, etc., etc. Et bon, j'ai réussi à l'avoir. Après, quand je l'ai eu, je me suis rendu compte que très vite, c'était très stylé. Mais je me suis rendu compte très vite que plus les niveaux défilaient dans le jeu et moins l'armure était adaptée et plus je me faisais défoncer. Après, il y a un système d'amélioration qui fait que bon, tu peux garder cette armure-là tout au long du jeu, si je me souviens bien. Et aussi, le point qu'on pourra peut-être soulever, je ne sais pas si ce sera fait au cours de cette émission, c'est à la croisée des jeux vidéo et de la mode, peut-être qu'il y aura les NFT. Et si ça Dieu. Se trouve, voilà.
Alors ça, tu peux oublier parce que c'est déjà en train de finir les NFT et heureusement.
Après, à voir, ça se trouve. Alors, je suis pas. Comment ils disent crypto.
T'es pas un crypto bro.
Ouais, je suis pas un crypto bro, je suis pas un crypto enthousiaste. Voilà, je. Bon. Mais potentiellement, ce serait peut-être intéressant d'avoir.
Est-ce qu'on peut expliquer justement ça pour les auditeurs qui ne connaissent pas
ce qu'est un NFT?
Exactement.
Alors. On pourrait.
Vraiment très vite. Hein. En gros, c'est un JPEG payant, quoi. Pour aller vraiment super vite.
C'est ça. C'est un objet numérique qui est supposément unique et dont une personne aurait.
Propriété.
Aurait la propriété, mais de manière numérique. Et pour une obscure raison, ça coûte genre 15 000 balles.
Parce que c'est un JPEG.
Voilà.
Mélissa.
Bon voilà, on va quitter les dérives du transhumanisme pour que je puisse aborder l'aspect financier, puisque la mode peut aussi être un gouffre financier, notamment je parle pour les jeux
tu
en ligne.
Tu parles pour toi là.
Non, pas du tout.
Le sexisme ordinaire.
Mes finances.
Non, il connaît juste Mélissa.
Mes finances se portent à merveille, voilà, je n'ai pas du tout de problème. Bref. Oui, c'est vrai qu'il y a certains jeux en ligne où on peut se prendre d'affection pour le jeu et pour aller plus loin, souvent il y a des options qui sont payantes et qui tombent souvent, bah, comme on l'a dit, comme on l'a cité précédemment, à la fois sur le style vestimentaire mais pas que, parce que souvent les attributs vestimentaires que l'on souhaite acquérir vous donnent la possibilité d'avoir d'autres capacités et compétences. Et c'est vrai que ça peut être aussi un problème parce que bah, plus on achète, plus ça pousse à acheter, parce que c'est vrai que enfin, moi, pour ma part, je sais qu'il y a des jeux gratuits auxquels j'ai joué et je me dis jamais je franchis le pas de faire le premier achat. Et c'est vrai qu'une fois que le pas est franchi, bah, souvent, on va acheter d'autres trucs. Et je voulais aussi souligner que, en dehors de l'aspect où ça peut être un problème, commencer à être un problème d'argent, enfin, sans être problème d'argent où on commence à dépenser de l'argent, c'est vrai que la mode, ça peut être un gouffre de temps aussi dans les jeux. Je pense par exemple aux Sims, où je ne sais pas si vous avez joué aux Sims autour de la table, mais c'est un jeu où la personnalisation du personnage et de la famille est très importante. Et souvent, on a envie que tout soit bien. Il y a tellement d'options par rapport aux autres jeux qu'on va passer un temps considérable à perfectionner sa petite famille ou ses personnages. Et au bout d'un moment, en fait, on a passé tellement de temps à customiser ses personnages qu'on va pas faire de réelles parties parce qu'on va être saoulé ou qu'on a fait trop de temps d'écran. Donc voilà, c'est les deux aspects que je voulais souligner aussi, la perte de temps et d'argent dans la mode, dans les jeux.
Nathan, puis après ça sera Dylan et Léo, tout le monde veut parler, c'est génial.
Ouais,
Nathan,
je suis d'accord avec Mélissa, je trouve que, enfin moi du coup je suis plus dans la team la mode dans les jeux vidéo. C'est presque très dangereux financièrement, même pour, je trouve, certains développeurs qui prennent un peu leur communauté pour acquis. Là, j'ai clairement l'exemple de Dead by Daylight en tête. Bon, tout le monde autour de la table n'aura pas forcément l'exemple, mais du coup, je vais l'expliquer, puisqu'il n'y a que moi qui joue à ce jeu autour de la table. Mais en gros, si vous voulez, Dead by Daylight a énormément de problèmes au niveau déjà de l'optimisation et au niveau des bugs. Et au lieu de corriger les bugs...
C'est pour ça qu'on n'y joue pas, nous.
C'est ça, déjà, n'y jouez pas. Mais c'est bien quand même, venez jouer avec moi. Mais... Mais c'est ça le gros problème de ce jeu, c'est que au lieu de résoudre les bugs qui sont demandés par la communauté d'être résolus depuis un très long moment, les développeurs se prennent pour Vogue et Anna Wintour et préfèrent nous sortir des skins, donc des peaux littéralement en français. Donc c'est littéralement des costumes pour nos personnages préférés. Et il n'y a pas tellement de personnalisation dans le sens « j'ai un skin unique, j'ai un costume unique » puisqu'ils sont tous dans la boutique payant avec votre vrai argent. Donc forcément, il y a le Battle Pass, mais inévitablement, les skins finissent par ressortir dans la boutique. Et sachant que du coup, le Dead by Daylight a pris le modèle monétaire de League of Legends, à savoir, un skin va vous coûter entre 15 et 10 euros. Sauf que le problème, c'est que League of Legends, bah, il n'est pas payant, contrairement à Dead by Daylight. Et il y a beaucoup de jeux, je trouve, qui maintenant se basent vraiment sur ce modèle de skin et qui prennent, qui prennent un peu les joueurs en otage en mode bah, si vous voulez être différent des autres, vous payez nos costumes, ça vous apportera rien dans le jeu, juste une satisfaction personnelle.
Dylan.
Alors, pour rebondir, l'apparition des skins dans le jeu vidéo, enfin, je crois savoir que c'était sur Skyrim et c'était une armure pour un cheval à 3 euros, à 7 maximum. Et ça avait fait les gens avaient fait une levée de bouclier.
C'est le cas de le dire.
Ouais, pour le coup. À coup de Fusroda et autre chose. Je sais pas le dire. J'ai pas joué à Skyrim en vrai.
Non, oui, c'est ça. Tu es bon.
Ah, super. J'ai l'approbation de connaisseurs. Et du coup, là, on se retrouve à payer des... Ben, par exemple, moi, je joue à Apex. Je passe beaucoup de temps à jouer à ce jeu et à souffrir sur ce jeu.
Tu es une bonne personne.
Alors,
très bonne.
Faut pas jouer avec moi. Peut-être, hein, mais faut pas être dans la même équipe que moi.
Mais vas-y, continue.
On t'échange contre Nathan.
J'allais faire la blague, mais franchement, ça fait encore plus mal de savoir que mes coéquipiers m'ont dénoncé. C'est une trahison.
On en parlera après l'émission, vas-y.
Ça marche, on échange nos... Et donc, du coup, ouais, je joue beaucoup à Apex. Et au début, je me disais, le jeu, il est fun, mais il est gratuit de base. Je vois pas pourquoi je vais mettre de l'argent dans le jeu. Il est gratuit. Puis, un Battle Pass. Bon, encore le Battle Pass, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on met de l'argent une fois et théoriquement, on a assez d'argent in-game pour racheter le prochain.
Non, puis... c'est qu'en fait, tu peux en jouant, en fait, si tu joues assez au cours d'un seul pass, tu peux récupérer l'argent que tu as investi.
C'est ça, exactement.
Pour le réinjecter derrière.
C'est ça. Et ça donne un peu, au-delà même des parties ou même des parties classées, ça donne un objectif sur le jeu, etc. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, il y a tel skin qui me plaît dans la boutique, du coup, je vais l'utiliser, du coup, je remets de l'argent pour mon Battle Pass. Et Apex, c'est particulièrement vicieux sur un truc, ce sont les packs héritage, les heirlooms en anglais. Et en gros, si vous voulez, pour débloquer une arme de mêlée particulière qui ne rajoute aucun avantage in-game, c'est juste stylé et vous avez un truc que vous faites tournoyer pendant les parties, c'est soit de la pure chance. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'en ai chopé deux.
Les bâtards.
Yes. Soit 160 euros. Voilà.
Ah la vache.
Minimum.
Ouais. Alors on a Léo et puis après Ludovic.
Mais ouais, c'est bien de parler des skins justement et ça rejoint le problème des lootbox où on ouvre des paquets cadeaux comme des boosters Magic ou vous savez les vignettes Panini et on espère avoir des skins, donc des costumes qu'on n'a pas.
C'est au petit bonheur la chance.
C'est au petit bonheur la chance et le problème c'est que on peut... Alors c'est comme disait Mélissa, c'est uniquement cosmétique, ça n'ajoute rien. En tout cas les vrais bons jeux...
C'est au petit bonheur la chance.
C'est au petit bonheur la chance. Mais... Il y a un système qui commence à changer, je pense à Blizzard avec Diablo 4, qui vont avoir un hôtel des ventes en ligne avec lequel on peut acheter des costumes, des outils de personnalisation avec du vrai argent. Mais ils assurent, alors on verra quand le jeu sortira, que ça n'apportera rien en jeu, en statistique, que ce sera purement cosmétique. Mais n'empêche qu'il y a toujours cette tentation, quoi. On veut toujours avoir le truc qu'on veut parce que c'est beau, c'est stylé. Et faut pas oublier que ça sert à rien, en fait. Et entre dépenser... 5 euros dans un costume pour cheval, pour reprendre l'exemple de Skyrim, autant acheter peut-être un petit jeu indé sur Steam, un truc qui a vraiment de la valeur.
C'est la bonne idée du soir, Ludovic.
Oui, alors je trouve ça toujours très particulier et très drôle et assez paradoxal quand on sait que de voir en effet à quel point l'engouement sur l'achat de costumes, de skins, etc. dans certains jeux, quand on sait comment s'habille, quand on sait comment s'habille le gamer moyen, c'est-à-dire mal, c'est toujours paradoxal de voir des gens qui achètent des t-shirts à 10 balles, mais qui dépensent 50 balles pour acheter des costumes dans un jeu. Enfin, je sais pas s'il y a eu des études, s'il y a eu des, mais je me trouve ça assez intéressant et assez impressionnant. Voilà.
Alors. Peut-être que tu veux rebondir.
Je vais rebondir juste après, juste avant. J'aimerais mentionner quelque chose, c'est que bon, là, on évoque, on va dire, le côté négatif que peut avoir la fashion, la mode dans le jeu vidéo. Mais il y a des exemples où, on va dire, la mode, elle a un aspect positif. Et j'en ai deux à mon carquois. Dans mon carquois, j'ai deux flèches. La première, elle vient de Warframe, qui, pour le rappel, est un MMORPG troisième personne free-to-play. Qui existe depuis environ 2013-14, si je ne dis pas de bêtises, et qui est toujours en développement, qui rajoute du contenu. Et en fait, les développeurs ont de suite compris comment la mode pouvait servir leur jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place un système où les joueurs de la communauté peuvent personnaliser les armures, les personnages que tu peux avoir dans le jeu, et proposer des skins qu'ils créent eux-mêmes. Et les vendre pour du vrai argent sur le jeu. Et du coup, chaque skin acheté, il y a une partie qui revient au jeu, du coup à l'équipe de développement, et qui du coup permet de travailler sur du contenu. Et tu as un certain pourcentage qui est reversé du coup au créateur originel. Et du coup, je trouve que c'est un système qui est extrêmement sympathique, parce que non seulement ça encourage la créativité et le partage au sein même de la communauté, et en même temps, c'est une manière extrêmement saine de redistribuer, on va dire, l'argent qui est obtenu par ce principe. Et pour rebondir sur ce que disait Ludovic, en soi, c'est vrai que le gamer moyen, il s'habille mal, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même tout un merchandising, une nouvelle marchandise, un nouveau type de produit dérivé qui arrive, et c'est les t-shirts, les sweatshirts, tout ce qui va être l'habillage. Et on le voit en fait, que quand on voit quelqu'un dans la rue qui va avoir un t-shirt Golden Axe, comme par exemple Nico qui vient des fois avec un t-shirt Golden Axe,
et parfois Léo également.
Ouais. Mais parfois ça fait plaisir, parce qu'on se dit, ah, je connais la référence, ça veut dire qu'il joue au même jeu que moi, et tout de suite une
petite lettre de mon ami.
Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu vas être mon ami? Et anecdote, du coup, c'est pour ça que dans mes t-shirts, 80% des t-shirts que j'ai, ce sont des t-shirts, par exemple, de Destiny 2 ou de jeux vidéo, parce que comme ça, on m'identifie. On se dit, ok, le mec joue à tel jeu et je peux être ami avec lui sur ça.
Donc t'as pas d'amis.
Voilà.
Dylan.
Pour rebondir de manière immédiate, alors déjà, qui est le gamer moyen? Puisque de plus en plus de personnes jouent aux jeux vidéo, et on a un archétype en tête, comment il s'appelle? Le joueur, c'était dans South Park,
le nerd.
Voilà, le nerd dans sa cave et tout, on a un peu dans sa... Oui, dans sa cave.
Et oui, c'est plus ça maintenant.
C'est ça, c'est-à-dire que même peut-être... mais même jouer sur téléphone aussi, est-ce que ça ne fait pas de nous des gamers?
Non.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà.
Ce n'est pas le débat du jour.
Donc, il y a de ça. Donc, est-ce que le gamer moyen s'habille mal? Je ne sais pas. Après, pour rebondir, au début, j'ai parlé de tout ce qui est technologie NFT, qui est en train de se casser la gueule. Mais comme on prend, pour prendre un peu l'exemple du skin pour cheval à 5€ sur Skyrim il y a quelques années, et maintenant c'est devenu une base. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où justement on aura un peu un schéma similaire? C'est-à-dire que là où effectivement les NFT maintenant, ou même les crypto-monnaies en ce moment, c'est pas très folichon si j'ai tout compris, peut-être dans quelques années, oui, ce sera normal de dépenser une certaine somme pour avoir cet élément de gameplay particulier. Enfin, cet élément puisque ça ne rajoute rien. Cet élément virtuel vestimentaire in-game qui serait attribué à un personnage est-ce que ce ne sera pas une base dans quelques années?
On verra bien, peut-être que Grostic existera dans quelques années encore et on pourra enfin répondre à cette question.
Et en NFT.
Voilà. Alors il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est justement le caractère design, parce que créer des vêtements, créer des habits pour ses personnages préférés, par exemple je pense à King of Fighters où ils sont hyper stylés, il y a énormément de qualité en termes de créativité sur les costumes. Donc c'est vraiment un métier aussi de designer. La plupart du temps, on a l'impression même que ils pourraient créer des vrais vêtements pour des défilés, genre Yves Saint Laurent et compagnie, tellement c'est stylé, certains personnages. Et notamment, ça, on le retrouve après chez les cosplayers, parce que les cosplayers, c'est quand même des Qu'est-ce qu'il y a, Léo ?
Non, je voulais dire un truc, mais en fait, ah oui. Ça n'a rien à voir.
Ah, d'accord. Les cosplayers, je veux dire, ils prennent leurs personnages, ils les regardent, et puis après, ils essaient de recréer les vêtements qu'il y a dans les jeux. Et donc, il y a toute une dimension aussi. On va s'habiller comme le personnage, et là, on passe de l'écran à la réalité.
Et ça, c'est si juste tu te concentres sur les cosplayers qui, on va dire, vont incarner ou essayer d'incarner le plus précisément possible un personnage. Mais si tu commences à t'intéresser à ceux qui s'approprient l'univers ou les personnages et qui...
Non, mais il y a des tarés aussi.
Ah, ben... Oui, bien sûr, mais quand tu t'intéresses à ceux qui créent leur propre aussi, donc original character, enfin, leur propre perso avec leur propre dynamique, leur propre design, mais qui du coup part, par exemple, d'un jeu vidéo comme King of Tie Fighter, bah là c'est super intéressant.
Mélissa.
Moi, cette histoire de mode virtuel, ça me fait très peur parce que, alors déjà, pour passer de l'écran à la réalité, mon bon plan du jour, les 5 euros que vous voulez mettre pour le skin du cheval dans Skyrim, mettez-les sur Vinted et vous aurez un vrai vêtement, comme ça vous gamer vous serez mieux habillé.
Alors, est-ce qu'il y a un cheval sur le vêtement ?
On ne sait pas toujours ce qu'on achète. Hein.
Oui, mais c'est pour dire qu'il existe des bons plans dans le réel. Et une inquiétude que j'ai vraiment, qui peut-être, si Grostik existe encore dans 10 ans, c'est qu'il y aura peut-être une sorte de propagande, parce que moi j'en vois de plus en plus par rapport au métaverse, où on va vous inciter à posséder des choses virtuellement, comme le disait Léo. Pour l'instant, aujourd'hui, ça ne sert à rien, à part se faire plaisir et avoir un peu plus de style dans le jeu. Mais peut-être qu'un jour, ces vêtements prendront une valeur comme les NFT et vous habillerez dans le métavers. Donc, vous serez en pyjama chez vous et vous aurez tout intérêt à posséder des vêtements numériques.
Il y a Léo qui
trépigne.
Puisque
vous sortirez dans le métavers où on nous vend un monde merveilleux, où les chirurgiens pourront s'entraîner en ligne, dans le virtuel, sans toucher à des vrais humains. Et quoi ? Non. Ludovic voulait dire quelque chose, mais c'est pas utile.
Léo.
Oui, non, mais par contre, ça c'est un autre débat. C'est si le métaverse et les univers virtuels vont prendre, quels seront les impacts ? Donc là, il y a 10 000 questions qu'on peut se poser. Bon, perso, et vu la tendance, moi j'y crois absolument pas au métaverse. Déjà, quand on voit ce qui se passe sur Roblox, c'est catastrophique et c'est honteux. Et déjà, ce qui se passe dans la bêta du métaverse, ça fait pitié, mais à mort. Enfin, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais c'est beaucoup trop critique.
Parce que la technologie n'est pas encore développée.
Et le public est complètement désintéressé pour ça, en fait.
Parce que c'est pas développé.
Il y a des tentatives, donc je pense que tout ce qui est vente de vêtements sur le métaverse, ça prendra pas, honnêtement.
Alors Ludovic et après Béré, après on va clôturer cette thématique.
Et sur la question plus globale de la question de l'habillement dans le jeu vidéo, je me suis posé la question, est-ce que techniquement les jeux vidéo n'étaient pas les Barbie pour beaucoup de garçons?
Alors
Béré,
maintenant c'est ton tour.
Non, en vrai la question est intéressante.
Parce qu'en effet, j'ai vraiment souvenir, enfin j'ai des souvenirs de d'enfance, d'avoir vu des potes passer des heures et des heures à gérer la taille du menton de leur personnage sur Morrowind, vu que Skyrim n'existait pas encore, et se foutre de la gueule de leur petite sœur qui mettait des petites jupettes à leur Barbie. Et je me pose la question si en effet il y a une corrélation. Ouais. Et si nous tous on n'a pas besoin d'habiller des gens?
Non, complètement.
Ouais. Il y a ce côté personnalisation que tu retrouves partout, hein, en soi. Qu'est-ce que je voulais dire en soi? Tu m'as fait perdre ma trace, ça y est, je sais plus.
Eh bien, tant pis.
Non, attends, j'ai retrouvé. Ah bon. J'ai retrouvé. Continue à poser ta question sur.
Je sais pas.
Non, mais il y a certainement une corrélation, en fait. Vraiment. Oui.
La conclusion, c'est que les filles sont plus ancrées dans le réel et les garçons n'assument pas le fait de jouer à la Barbie, donc ils le font virtuellement.
Alors, exactement, c'est une bonne.
Ça, c'est faux. Et il y aura un exemple pour ça, c'est Animal Crossing. C'est une maison de poupées pour tout le monde. Ça cartonne à fond aussi
tu
bien.
Tu dis que c'est pour tout le monde parce que tu y joues.
Mais c'est vraiment pour tout le monde, même pour les sceptiques.
Si vous regardez le visage de Dylan maintenant, vous verrez le mépris sur son visage pour ce jeu.
Oh, parfaitement.
Eh bien, j'ai beaucoup de peine pour Dylan parce qu'il ne connaît pas encore Animal Crossing.
J'ai essayé,
Et non, même les plus sceptiques, j'ai réussi à leur faire mordre Animal Crossing à pleines dents. Et ils en ont des centaines d'heures.
Allez, on va ranger les vêtements dans le dressing. Et on va parler de toute autre chose avec Joris et Mélissa. Et qui veut commencer d'ailleurs ? C'est plutôt Joris. Allez, on y va.
La chronique. musicale.
Shadow of the Colossus est un univers. Un univers tenace. En témoigne ma fascination pour ce jeu depuis que j'ai parcouru les terres interdites cet été. Depuis, ma fascination ne m'a plus quitté. La rencontre avec cet univers s'est justement faite à travers ces notes de musique que vous entendez en ce moment. Une manière envoûtante de commencer à se plonger dans l'univers de Shadow of the Colossus. La musique, composée par Kou Otani, nous entraîne sur les pas de Vander, notre héros solitaire, accompagné de sa fidèle jument Agro et transportant une mystérieuse silhouette. Lors de cette cinématique d'introduction, on les voit parcourir des paysages désolés et peu accueillants, entre des falaises vertigineuses éclairées par la lune et un lac sombre dans la clairière d'une forêt. Le long parcours se termine à l'arrivée d'un temple. Il laisse la place à un viaduc gigantesque. À l'image de tout ce que vous allez trouver dans cet endroit, vous voici arrivés dans les terres interdites. Des terres frappées de malédictions, autrefois peuplées par une ancienne civilisation, dont on pourra parcourir les vestiges à la recherche d'une chose bien précise. En effet, si notre ami Vander a parcouru ce dangereux et long voyage, c'est pour venir en aide à Mono, une jeune femme qui s'avère être la silhouette sans vie, transportée sur le dos de notre jument Agro. Rentrer sur les terres interdites est formellement interdit. Non, je me rends compte de la débilité de ma phrase. Mais Vander a eu vent des pouvoirs d'une ancienne entité à l'œuvre dans ses contrées lointaines. Il va finir par faire la rencontre de cette entité dans un sanctuaire monumental. Ce qu'on suppose être une entité, une ancienne divinité, va entrer en contact avec Vander et lui proposer un marché. Ressusciter Mono à la seule condition de venir à bout de 16 colosses qui parcourent les terres interdites. Vander accepte sans aucune hésitation et c'est le début de notre quête qui va nous amener à affronter tour à tour ces différents colosses. Le principe étant toujours le même, à partir du mausolée qui va servir de hub central dans le jeu, on va employer... les variations de musique en fond, on va explorer...
Parce que tu m'as mis des musiques qui ont de la poussée, là. Donc.
Oui, c'est vrai, ça nécessite de travailler, mais... Excusez-moi.
Pardon, prochaine fois, tu prendras ma place.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, je disais, à partir du mausolée qui va servir de hub central dans le jeu, on va explorer les terres interdites composées de déserts, d'anciennes cités, de plaines, de grottes... de vallées et de lacs à la recherche de ces colosses et les combattre. La fascination commence alors avec les nombreuses questions nous venant en tête alors qu'on parcourt ces grandes étendues silencieuses. Qui est vraiment Dormine? Pourquoi Vander veut-il ressusciter Mono? Pourquoi ces terres sont interdites? Quelle civilisation vivait ici? Pourquoi a-t-elle disparu? Bref, autant de questions qui vont rester sans réponse. Et cela ne va pas s'arranger lorsque on va faire la connaissance des colosses. Ces géantes figures portent bien leur nom, certes, mais vont, par leur attitude paisible et en totale adéquation avec leur environnement, nous faire nous poser encore plus de questions sur la légitimité de notre quête. Mais qu'importe, que cela nous plaise ou non, nous avons une mission, et on se dit qu'il faut venir à bout du jeu si nous voulons avoir des réponses à nos questions. Le combat de David contre Goliath commence. De majestueuses figures millénaires s'animent et se dressent face à nous. Il faut alors identifier les points faibles des colosses, les escalader quand l'occasion se présente, et les frapper plein fer pour les voir s'écrouler et se rapprocher ainsi de notre objectif final. Vous vous en doutez, au calme des terres interdites fait place le côté épique des combats. Une dichotomie mise en lumière par la musique. Après avoir foulé le dos des colosses, la musique s'enchaîne et nous pousse à monter au sommet du géant. Un chemin ardu car le colosse ne se laissera pas faire, mais armé de votre courage et transporté par la musique, vous finirez par y arriver. Pas de spoil dans cette chronique, mais si vous voulez avoir des réponses à toutes vos questions, il va falloir attendre la fin du jeu. Une fin qui ne fera pas l'unanimité, certes, mais qui a la force, je trouve, de ne pas lever tout le voile de mystère qui plane sur le jeu et qui fait tout son charme. En effet, j'ai pris énormément de plaisir à parcourir cet univers entre contemplation, questionnement et fascination. Il m'arrivait plus d'une fois de flâner dans les terres interdites, de prendre le temps d'observer ces majestueux colosses et essayer de comprendre les différents secrets du jeu. Pour l'anecdote, un youtubeur du nom de Nomad Colossus parcourt le jeu depuis plus de 15 ans afin d'essayer de percer tous les mystères du jeu. Si vous êtes aussi curieux que moi, Mélissa est morte de rire. Si vous êtes aussi curieux que moi après avoir éteint la console, vous pourrez passer des heures sur des forums et lire des articles analysant le jeu et son univers de fond en comble. Une idée qui n'est pas en adéquation avec Mélissa qui veut qu'on profite de la vraie vie et ne pas passer des années à parcourir ce jeu qu'elle a adoré. Bref, autant de questions sans réponse et de théories qui ne pourront jamais être tranchées. Au grand malheur de Mélissa, on va y rester encore longtemps sur ce jeu, je peux te le dire, mais qui font justement de Shadow of the Colossus un conte dans lequel je vous conseille vivement de vous plonger et de vous laisser happer par son univers. Kowotani et ses somptueuses compositions fera que la magie opère. C'est l'occasion pour moi aussi de rendre un hommage à ce compositeur discret qui, avec très peu d'apparitions sur la scène vidéoludique, signe l'une des plus belles bandes originales de son histoire.
Alors j'en ai plus à passer par contre.
Ça je suis désolé Nicolas, c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure, mais bref, voilà, j'étais pris
non,
le stress et tout.
Bien sûr, je comprends très bien.
Le test. Bienvenue, bienvenue dans ce test. Un test comme vous ne l'avez jamais entendu. Une épopée à la fois épique et enchantée pour rendre honneur à ce jeu des plus troublants, présenté par mon collègue juste avant, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, littéralement l'ombre du colosse, ou Wander and the Colossus, Wander et le colosse, au Japon, qui est sorti d'abord au Japon, hein. C'est un jeu vidéo d'action-aventure japonais développé et édité par Sony Computer Entertainment pour la PlayStation 2, dans un premier temps. Le jeu est sorti en octobre 2005 en Amérique du Nord et au Japon, en février 2006 en Europe. Le jeu est développé par la team ICO, qui avait précédemment dirigé le jeu ICO. D'ailleurs, il y a un petit... Si vous achetez le jeu aujourd'hui, souvent, c'est ICO et Shadow of the Colossus qui vous sont vendus en même temps.
On appelle ça un bundle.
Un bundle, voilà, je cherchais le terme. Merci beaucoup, Nicolas. Il a fait l'objet d'une réédition sur PlayStation 3 en septembre 2011, avec des graphismes remasterisés en haute définition sur un Blu-ray contenant également ICO dans ce bundle, comme je le disais. Un remake sur PlayStation 4 existe aussi, qui est sorti, lui, en février 2018. Le jeu raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Wander, comme Joris l'a dit, qui se rend sur une terre abandonnée, sacrée, afin de redonner vie à une jeune fille. Laissez-moi maintenant vous raconter la genèse du vrai test. Tout d'abord, il faut que je fasse preuve de transparence. Cette chronique ne porte pas sur moi en tant que joueuse, mais sur Joris en tant que joueur. Et oui, l'émission Grostik a assisté à la naissance d'un amour naissant, et y a même contribué. Joris et moi sommes bien des entités individuelles, mais nous sommes aussi deux. Et je dirais même plus, nous ne faisons qu'un. Enfin, nous ne faisions qu'un jusqu'au 24 août dernier, où j'ai vu, ou plutôt subi, la transformation de mon homme, et tout ça à cause d'un pauvre jeu au gameplay pourri, le bien dénommé Shadow of the Colossus. Je vous laisse à présent écouter un extrait afin de vous laisser un petit aperçu de la transformation de Joris.
Le boss final, c'est que des contrôles hasardeux sur, sur des phases de plateforme de merde avec une caméra qui va partout. Les gros défauts, c'est... Attends. Non mais c'est pas drôle du tout en fait. C'est horrible en fait.
Et là, pour l'instant, ce que vous avez entendu, c'est soft. Joris vous a présenté dans sa musicale le monde merveilleux de Shadow of the Colossus, un monde empreint de mystère, avec une bande sonore léchée, envoûtante et mystique. Un jeu qui ne vous laissera pas indemne. Mais Joris n'a pas été totalement honnête avec vous, car SOTC, pour les intimes, est avant tout... est avant tout un jeu qui rend fou. Et qui rendra surtout fou votre copine, si vous en avez une.
C'est-à-dire pas beaucoup de gens qui nous écoutent.
Alors ça, c'est pas sympa pour les auditeurs.
En plus, ils ont des skins.
Le principe du jeu est simple. Je vous le rappelle, Wander est perdu. Sa douce bien-aimée, enfin on pense que c'est sa bien-aimée, mais on n'en sait rien en fait. C'est peut-être sa sœur ou sa petite cousine. Il n'y a quasiment aucun dialogue dans ce jeu plus que douteux. Je disais donc que Wander veut ramener à la vie cette fille qui semble morte et qui repose sur un autel. Il se rend donc dans un endroit malfamé où on lui confie la mission, tuer tous les colosses de la région, ils sont 16 au total, afin que son vœu soit exaucé. Vander est une tête brûlée. Doté d'aucune raison, il ne réfléchit point. Il part à l'aventure avec son cheval Aggro, 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 et muni de son épée bien trop lourde pour lui, il s'en va, paf, comme ça, et il part devenir un assassin. Devenir un assassin n'est pas chose aisée dans SOTC, car le gameplay ne vous aidera pas dans ce sens. À vrai dire, je ne sais pas trop, car soit le gameplay est vraiment horrible, comme mon cher Joris l'a évoqué, soit Jojo, mon cher Jojo, tu surestimes tes compétences vidéoludiques. Car je dois rappeler à toutes et tous que moi aussi, j'ai joué à SOTC, certes peu et bien moins que Joris, mais quand même, chacune de mes tentatives en termes de conquête et d'ascension des colosses a été un vif succès. Pour en revenir au gameplay, sa prise en main est progressive. Le premier colosse est censé être le plus simple de tous, et la difficulté s'accroît de colosse en colosse, mais Joris, lui, en a chié, et il en a de plus en plus chié, comme s'il ne s'améliorait pas. Je dis ça, je dis rien. Pour quelqu'un qui pratique la respiration zen, on se demande où était passée ta zénitude, hein, Joris ? Je dois bien avouer que le gameplay était en effet complexe. Surtout ce maudit cheval, qui était en fait têtu comme un âne, aggro, fougueux, mais terriblement attachant, vous en fera voir de toutes les couleurs, rien que pour lui monter dessus. Mais une fois lancé, il sera votre meilleur partenaire. J'avoue avoir lâché une petite larmichette lorsqu'on pense que aggro est mort et qu'on le reverra plus jamais emporté par le courant d'un fleuve aussi mystérieux que l'ambiance du jeu.
Tu spoiles.
Oui, mais...
C'est l'un des pires spoils du jeu.
Alors, le jeu est sorti en 2006.
Et alors, il y en a qui vont le lancer demain.
Dylan voulait jouer au jeu sur Play 4 qui est sorti en 2018. Exactement. Donc assez récemment.
Alors, c'est faux, j'allais pas y jouer. Mais Joris a annoncé qu'il n'y avait pas de spoil dans la chronique.
Dans sa chronique.
Ah, yes, super. Ah.
Est-ce que Shadow of the Colossus est un bon jeu? Je ne sais pas, je suis assez dubitative. Ce jeu a avant tout rendu mon homme fou de rage. J'ai été réveillée plusieurs fois la nuit à 3h du matin, le voyant tout transpirant, et je ne parle pas que de sueur, mais bien d'une véritable haine. L'amour-haine, c'est la relation que Joris et moi avons entretenue avec ce jeu, qui pour ma part je trouve assez redondant. On ne fait que tuer des colosses, et il doit bien y avoir 10 lignes de dialogue à tout casser, avec une cinématique unique, où une sorte de chaman apparaît de nulle part, cela m'a laissé un souvenir tellement impérissable que je ne me souviens même plus de ce qu'il disait.
Pour moi, ça s'appelle la poésie.
Pour moi, SOTC est un jeu que je souhaite oublier. Car comme Vander qui bascule du côté sombre de la force, Joris a lui aussi basculé. Et je souhaite retrouver un Joris lumineux, avec l'esprit clair et qui prend des décisions réfléchies. Donc fais attention à toi sur la route, mon cher et tendre Jojo. Petit bonus, on termine cette chronique avec un petit florilège de Joris qui pète les plombs pendant 1 minute 17, savouré.
Alors là, je suis là. Contrôle caméra, bordel, de ta caméra de merde. Je fais quoi? Je fais ça. Ok. Maintenant. Non, arrête vraiment. La phase, en fait, c'est quand c'est celle-là. C'est là où il est le plus long. Et je dois être avec l'arc. Et là, sur des contrôles hasardeux avec une caméra de merde, pendant que ça bouge, faut tirer à l'arc sur une bonne cible.
Alors là, il explique calmement, mais...
Attends, chut, chut. Non, vraiment, tu me déconcentres. Non, vraiment, je te jure, tu me déconcentres, s'il te plaît. Reviens, arrête. Allez. Mets-toi bien, enculé. Allez, tiens-toi. Putain, il me présente pas la cible. Je fais comment, moi, pour viser? En fait, le truc, c'est de me faire péter un câble, en fait. C'est ça, le but du jeu, là.
Le test.
Et le test, c'est avec Nathan. C'était coupé n'importe comment, ce son que tu
non,
m'as donné.
Non, mais c'était volontaire. D'accord. Comme la folie de ce jeu.
Ah oui.
Bon, ce sera un peu moins dramatique, moi. Du coup, hi, bonjour, comment ça va? Moi, ça va. Et je peux vous dire que cet été, j'ai pas chômé. En effet, j'ai pour habitude de me plaindre de ne jamais finir mes jeux, mais pendant ces vacances, ça a changé. J'en ai fini un. Bon, en théorie deux, mais pas sûr que la campagne d'un FPS compte vraiment. Donc, fort de mon avance sur les chroniques, je vais en profiter pour vous parler de mon expérience sur le jeu Shadow of the Colossus. Non, je rigole. Metal Gear Rising Revengeance. Sorti le 22 février 2013 sur PS3 et Xbox 360. Et en janvier 2014 sur PC. Là, j'ai pas trouvé le jour.
Pas grave.
Mais c'est pas grave. On a l'essentiel. Metal Gear Rising Revengeance est un beat'em all édité par Konami et développé par mes petits chouchous de chez Platinum Games, les développeurs de Bayonetta. Au niveau du synopsis, chronologiquement, on est après Metal Gear Solid 4, Guns of Patriot. Concrètement, j'ai pas joué à Metal Gear Solid, je sais pas ce que ça veut dire. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est pas dans la chronologie officielle. C'est un jeu tellement à part qu'ils ont changé le slogan de la série carrément. En fait, habituellement, Metal Gear Solid a un slogan qui est Tactical Espionage Action. Là, ils l'ont changé pour Lightning Bolt Action. En essayant de le traduire, ça fait éclair, verrou, action. Donc bon, j'ai pas, je vous laisse sans traduction parce que c'est un peu... C'est pas ouf.
T'as raison.
Mais... Donc, pour l'histoire, on est sur Raiden qui travaille pour une société de sécurité militaire privée appelée Maverick Security Consulting. Alors que le monde est sorti des conflits civils, il se fait attaquer par un cyborg, Samuel Rodriguez. Après avoir été copieusement insulté et humilié, Raiden reprend du service et prépare sa revanche. Sous fond de conflits géopolitiques, faut pas déconner non plus, on est chez Kojima. Pour le gameplay, il y a deux parties bien distinctes. On a la partie beat'em all plus ou moins classique, donc on a des combos à faire, il faut tuer le plus d'ennemis possible, il y a des parades, des esquives, tout ça, rien de bien innovant. Cependant, on a quand même le Blade Mode, qui est, à la manière du Witch Time dans Bayonetta, est un espèce d'arrêt dans le temps qui permet à Raiden de découper tout ce qui bouge. Le joueur a la possibilité de gérer l'angle et la localisation du sabre, tout ceci en vue TPS, Third Person Shooter, donc vue à la troisième personne. Ce mode permet de retirer la colonne vertébrale des adversaires pour permettre de régénérer les différentes jauges d'énergie de Raiden.
Sympathique.
Sympathique, très barbare, mais jauge d'énergie qui permettra aux joueurs d'accéder au mode Reaper. Donc en hommage à Jack the Reaper, retirer la colonne vertébrale, Jack the Reaper, ils ont essayé d'être dans le thème. Et c'est un mode qui le rend bien plus violent avec une énergie en illimité. Pour mes impressions personnelles sur le jeu, en tant qu'aficionados des beat'em all, je dois bien admettre que c'est vraiment pas mon préféré. Les mécaniques sont pas ultra évidentes et le fond d'histoire géopolitique il passe à la trappe. Je crois que j'ai découvert avec ce jeu que j'étais pas très très fan du travail de Kojima sur le storytelling. Peut-être parce que c'est aussi pas tellement fait par Kojima, puisque c'est surtout Platinum Game et Konami, mais... Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pas tellement aimé le fond de l'histoire. Et mention spéciale au niveau des mécaniques pas ultra évidentes, à la parade qui s'active un petit peu au petit bonheur la chance quand elle en a envie. À la fin, on finit par maîtriser le timing, mais au début, on comprend rien et on se fait défoncer ultra facilement. Cependant, si vous voulez jouer à ce jeu pour son potentiel iconique, puisque c'est un jeu très bien connu des internets, alors foncez parce qu'il est très fun. En effet, on a des évolutions de testostérone, des situations absurdes et clichés, ainsi qu'une ambiance générale pouvant rivaliser avec JoJo's Bizarre Adventure. Tout est réuni pour le qualifier de même vidéoludique. Et j'ai une autre petite mention spéciale pour la musique, qui est un véritable petit bijou. C'est juste génial, on s'en gêne, on a envie de l'écouter tout le temps. Et sur ce, je vous fais mes petites salutations et je vous dis à bientôt.
Merci à toi. Oui, Ludovic.
Oui, je dirais juste un mot par rapport à ce jeu qui est vraiment extraordinaire et je conseille d'autant plus aux auditeurs de le jouer. Surtout que c'est un jeu qui est extrêmement peu cher. On le trouve assez facilement à 2€, 3€. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Et pour la critique sur la géopolitique du jeu ?
Non, mais c'est du Kojima, donc c'est jamais très brillant.
Ça va, on s'en change.
Chronique rétro.
Et la chronique rétro, ça va être avec moi, avec le jeu Giga Wing. Alors, c'est un jeu récent pour une fois, 1999. Donc, c'est fait par Takumi. Alors, Takumi, vous ne connaissez pas Takumi, ça c'est sûr, ça j'en suis sûr. Et c'était sorti sur système arcade CPS2. Ça a été adapté après sur Dreamcast et compagnie. Les micros sont ouverts. Et donc, c'est un shoot'em up au scrolling vertical, mais l'écran reste à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de renverser sa télé pour pouvoir jouer à ce jeu. La télé reste normale, voilà, et vous y jouez à l'horizontale, mais avec les ennemis qui arrivent par le haut de l'écran, d'où le scrolling vertical du jeu. Alors, 4 avions au choix, alors on est en 2D, hein. Là on a des petits avions qu'on voit sur le dessus, et on doit défourailler tous les ennemis qui arrivent. Voilà, alors on a quatre personnages au choix et donc quatre avions différents. On a Shinosuke qui a un avion violet et qui tire avec des balles violettes. Donc lui, il a une bonne amplitude, mais il est quand même pas très puissant. Il est assez modéré au niveau de sa vitesse. Et ensuite, on a Ruby. C'est un avion rouge avec des tirs jaunes, un tir un petit peu plus concentré, voilà, et qui score pas mal. Et ensuite, on a aussi Stuck qui, lui, un magnifique avion vert. Il a aussi des tirs verts, tout est vert, avec un tir frontal et avec des tirs secondaires orientables et qui sont assez puissants, qui permettent de se sortir de mauvais pas. Et on a ensuite, pour finir, Isha, qui est une pilote, qui a un avion bleu et qui tire des balles à tête chercheuse. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour les débutants, les têtes chercheuses, toujours, hein, les tirs à tête chercheuse. Ça évite de se positionner bien devant un ennemi pour le détruire. Voilà, mais elle est très peu puissante et elle est plutôt lente. Alors ce jeu, il développe une ambiance assez steampunk. Vous affrontez de gros vaisseaux de guerre, des croiseurs, des trains, et tous manœuvrés par un étrange médaillon de la mort qui passe d'un boss à l'autre. Vous êtes également challengé de temps à autre par un ennemi type un petit peu baron noir qui vous défie régulièrement et un peu aléatoirement suivant les niveaux que vous faites. Et qui sera bien sûr le true last boss du jeu si vous ne perdez que 2 vies durant votre partie. Voilà, chose qui est assez difficile à faire, hein. Au niveau du gameplay, votre vaisseau dispose d'une arme révolutionnaire notée RF, alors non Joris, ce n'est pas Roger Federer, qui signifie plutôt ici Reflect Barrière. C'est une arme qui se remplit avec une jauge, et une fois que la jauge est remplie, ça déclenche un bouclier qui renvoie tous les tirs ennemis vers les ennemis en question, et tous les tirs présents à l'écran donc sont renvoyés jusqu'à détruire tous les ennemis qu'il y a à l'écran, et ça vous permet de collecter des médailles qui vont vous faire hausser votre score. Alors pour vous en sortir, il est donc évident d'avoir cette technique dans la main et dans son stick et enclencher le réflexe barrière au bon moment et manœuvrer entre les tirs le temps que la jauge se remplisse à nouveau et ainsi de suite. Quand vous entendez OK, vous pouvez déclencher votre jauge de réflexe barrière et ainsi générer du score. Alors pour triompher, il faudra venir à bout des 7 stages que compte ce jeu, avec 3 vies seulement, je le disais tout à l'heure, et le jeu est entrecoupé de petites scénettes avec votre personnage bien dessiné façon manga, et ça réagit plutôt pas mal face aux situations, et ça entrecoupe le jeu, ça permet un peu de souffler entre 2 stages. Alors graphiquement, le jeu est assez joli. On est quand même assez loin des standards du genre comme Dodonpachi ou Battle Garega qui sont quand même beaucoup plus beaux, mais certains décors sont très réussis, d'autres un petit peu moins. L'ambiance sonore est assez tonitruante, c'est l'overdose de bruitage, d'explosion dans tous les sens, de voix digite, mais les musiques du coup sont un peu en retrait car un peu plus sous-mixées que ces bruitages-là. Alors le jeu est très très fun et à chaque partie c'est encore plus fun, et s'en sortir quand l'écran est bondé de tirs grâce au réflexe barrière et faire tout péter dans une pluie de médailles, ça n'a pas de prix, c'est plutôt jouissif. On y revient sans cesse d'une partie à l'autre, on a toujours envie de refaire une partie, même quand on perd, on a envie de s'améliorer et de voir un petit peu plus loin dans le jeu. Et finir les 7 stages, ça sera quand même vraiment compliqué pour triompher de ce jeu. Alors Giga Wing est dispo dans toutes les bonnes crèmeries, sur Dreamcast, sur Born Arcade, sur PC, sur Switch même, et oui je sais qu'il y a des amateurs de Switch autour de cette table. C'est dispo sur émulateur, ça c'est pour les gens qui ont un petit peu moins d'argent. En tout cas, vous n'avez aucune excuse donc pour jouer à ce jeu, pour ne pas jouer à ce jeu, puisqu'il est dispo un petit peu partout. Oui, Ludovic, et après Dylan.
Oui, juste pour bien comprendre, parce que je suis assez limité. Donc, le vaisseau se déplace sur la verticale.
Non, il se déplace, il est en multidirectionnel.
Il est en multidirectionnel, mais les ennemis viennent d'en haut.
Ils viennent.
En fait,
c'est vu de dessus.
Ils n'ont pas compris le principe de scrolling vertical.
Vas-y,
je crois.
Explique.
Oui, voilà, c'est
c'était
ça,
ma question en fait.
Explique. C'est le défilement de l'écran, hein, le scrolling.
Est-ce que
dans
ce
un
scrolling horizontal avec des ennemis verticaux,
non, non.
Est-ce qu'il est dans la pièce avec nous en ce moment?
Le scrolling vertical, ça veut dire que le défilement de l'écran, il est en... quand tu joues à Mario, le défilement, il est horizontal de l'écran. Oui. Voilà. Donc quand tu joues à Chicken Wing, il est vertical. C'est-à-dire que c'est vu de dessus. Voilà.
Ah,
votre vaisseau est vu
la...
de dessus.
C'est à la manière de Toho Project, finalement, en fait.
C'est à la manière de ton jeu, là, par exemple, Léo, que tu aimes bien.
Ah,
ton
Jamestown.
Jamestown, si vous connaissez Jamestown. Ou pour les plus vieux d'entre vous, je ne sais pas, il y a d'autres jeux.
Je ne sais pas, tu prends Space Invaders.
Voilà. Non, Space Invaders, il n'y a pas de scrolling. Mais, bon.
Mais alors, ça va de haut en bas.
Potentiellement,
en fait,
la...
de gauche à droite.
La partie en vaisseau de Nier Automata.
Ben
ça
non,
vous
parce
parle.
Que là, c'est comme ça. Enfin, c'est la
non, il y en a une session où c'est...
Ah ouais.
Je crois, dans la partie mime de Gross Trick, ça marche super bien.
Je sais pas, en autre shoot'em up verticaux, il y a Bedo Danpachi, Raiden... je sais pas si vous connaissez...
On regardera une vidéo sur YouTube.
On fera ça.
Voilà, un shoot'em up, quoi, vertical, en fait, normalement, tout le monde comprend, non?
Oui, oui, non, oui. Mais bien sûr.
Mais pas quand tu l'expliques, c'est bizarre. Hein.
Il y a un scrolling. Scrolling, vous savez ce que c'est un scrolling? C'est le défilement de l'écran, voilà. Quand tu scrolles avec ton téléphone,
oui, oui.
Bah, tu fais défiler l'écran de bas en de haut en bas.
En fait, quand tu as rajouté la précision de la vue du dessus, je pense que ça a été un peu plus clair pour tout le monde. Mais sinon, j'ai juste.
Je l'avais dit au début que c'était vu de dessus.
L'a-t-on tous capté?
En fait, Gigawin, c'est comme aller sur Twitter.
Autant pour moi, mais à coup le pas.
Pardon?
En fait, Gigawin, c'est comme aller sur Twitter, sur son téléphone, mais avec des ennemis et des petites boules.
Mmh. Ouais, alors oui, c'est imagé.
C'est comme Twitter, du coup. Ouais.
C'est un petit peu imagé, quand
okay,
même.
Ok, boomer.
Voilà. Allez, mais c'est la fin de Gross Trick. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de votre émission de jeux vidéo favorite. Enfin, on espère que c'est votre émission de jeux favorite. Oui, Dylan.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Ah, vas-y.
Une chose est sûre, avec des copines comme Mélissa, pas besoin d'ennemis. si jamais vous tripotez le joystick tard le soir, faites en sorte que votre compagne ne soit pas en train de vous filmer. N'est-ce pas, Joris?
Ou alors, elle est en train de
vous filmer. Voilà, c'est ça. Votre gros stick.
Tout ça, c'est un hommage. Je suis très contente que Joris ait eu une passion que j'espère temporaire.
Pour l'avenir de leur couple.
Allez, salut à tous.
Bye.
Salut.
Salut. Bye.